7h13 à Cali, en Colombie. Bonjour Juliette Landry.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour la COP 16 sur la biodiversité. On en parlait dans le journal. Vous êtes responsable de recherche sur la gouvernance internationale de la biodiversité à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci d'être en direct avec nous. On le disait tout à l'heure, on est entré dans les prolongations à cette COP. Les discussions ont duré toute la nuit. Là, ça continue. On va faire le point avec vous d'abord sur les avancées avant de parler de ce qui bloque. La nuit dernière, les pays ont adopté une décision en faveur des peuples autochtones d'Amérique latine qui va leur permettre d'être mieux représentés, mieux entendus dans les grandes instances, les discussions internationales. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une avancée quand même majeure, notamment pour ces populations, les populations concernées, qui en fait sont... qui sont directement concernés par la protection de la biodiversité parce que ce sont des populations qui vivent dans des territoires où ils, grâce à leur savoir traditionnel, ils arrivent en fait à encore mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes que ce qu'on peut faire nous via nos aires protégées. Et donc, ce qu'ils demandaient depuis un certain moment, c'est de pouvoir exprimer leurs revendications, leurs recommandations à la COP. Et la COP, c'est en fait la conférence de toutes les parties, donc de tous les États qui ont signé et ratifié ce traité de l'ONU sur la biodiversité. Donc ils vont pouvoir directement s'adresser à eux, leur recommander des choses, et c'est un organe aussi permanent. Donc c'est pas seulement quelques réunions par-ci par-là, ils vont pouvoir régulièrement se rencontrer et régulièrement émettre leurs recommandations.
Donc un droit de s'exprimer, de faire des recommandations, mais est-ce qu'il y aura aussi une possibilité de participer aux décisions, un droit de vote ou quelque chose de plus concret ?
Alors, en ce qui concerne la COP de la Convention de l'ONU sur la biodiversité, il n'y a pas de vote. C'est au consensus. C'est une convention qui est assez souple et qui demande l'accord de toutes les parties, de tous les États. Et comme il s'agit d'un traité international, en droit international, c'est avant tout les pays qui ont signé, qui ont en fait ratifié ensuite via leur parlement au niveau national ce traité-là, qui ont un droit, un regard, disons. Mais de plus en plus, on constate, et c'est le cas aussi dans le cadre de l'accord qui a été signé il y a 2 ans, qu'on appelle l'accord de Kunming-Montréal, on constate de plus en plus l'importance de co-construire, de faire participer davantage d'autres acteurs. Alors on peut parler des populations autochtones et des communautés locales, mais aussi les organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé, etc.
Donc d'ouvrir les discussions.
On n'a pas de droit de vote, mais en tout cas c'est une convention qui demande l'implication de toutes les parties prenantes. Donc c'est évidemment important qu'on les entende un peu mieux.
Alors voilà pour l'avancée. Maintenant, sur ce qui reste flou, sur les sujets les plus sensibles, il y a notamment celui de la création d'un fonds multilatéral dédié à la biodiversité, demandé par certains pays du Sud. Donc grosso modo, pour que les pays du Nord financent les mesures de protection de la nature des pays du Sud. Où est-ce qu'on en est sur ce point-là ?
Eh ben, on est toujours bloqué en négociation. Là, au moment où je vous parle, en fait, on est encore en train de discuter de ça dans la salle plénière. Ça prend énormément de temps parce que on est face vraiment à ce qu'on appelle deux grandes lignes rouges d'un côté comme de l'autre. D'un côté, on a des pays plutôt donateurs, des pays du Nord comme l'Europe, la France, le Canada, le Japon, qui ne veulent pas en fait qu'il y ait plusieurs fonds. Plusieurs portefeuilles qui existent en parallèle.
Oui, et l'UE, par exemple, dit que ce serait un énième fonds.
C'est ça, exactement, parce qu'on a déjà un fonds qui s'appelle le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et une fenêtre dédiée pour la mise en œuvre, pour soutenir la mise en œuvre de cet accord mondial-là, sous ce fonds-là. Et en parallèle de ça, on a des pays en développement, les pays émergents, les pays un peu moins développés que les nôtres, qui en fait critique ce fonds-là, qui demande un fonds dédié à la biodiversité, parce que le fonds existant, en fait, il gère pas mal d'enjeux environnementaux. Il n'est pas véritablement dédié à la biodiversité, même si il procure de l'argent principalement à la biodiversité. Et il critique aussi des difficultés administratives, des lourdeurs administratives pour accéder à ces fonds-là, le fait que les paiements ne soient pas directement vers leurs autorités nationales, mais passent par des agences de mise en œuvre qui prennent une portion de l'argent. Donc en fait, il y a pas mal de choses assez techniques aussi qui entrent dans ce débat-là.
Et alors, un autre gros sujet, c'est le partage des données génétiques de la biodiversité, ces données de plantes ou d'animaux dans les pays en développement qui sont numérisées et qui sont utilisées par les entreprises, notamment pharmaceutiques et cosmétiques. Pourquoi c'est un enjeu important selon vous ?
C'est un enjeu important, déjà parce que ça peut rapporter énormément d'argent pour soutenir la protection de la biodiversité et aussi soutenir le financement des populations autochtones et des communautés locales. Donc déjà, ça peut rapporter des bénéfices et ça, ils se sont mis d'accord sur le fait que s'il y avait, ils sont aussi, il y a également la question du fonds pour cela. Donc il y a deux fonds en parallèle qui sont discutés et c'est pour ça que ça pose problème dans les négociations au moment où je vous parle. Et donc ce fonds-là, ils se sont moins décidés sur le fait que ça allait rapporter de l'argent. Pour la biodiversité et pour les populations autochtones et communautés locales. Or, aujourd'hui, ils sont pas entièrement d'accord sur, par exemple, est-ce que dans quelle mesure ça sera plus ou moins volontaire. On sait que ça sera forcément volontaire, incitatif, mais on ne sait pas encore quel langage plus technique on va mettre dans ce texte-là. Et aujourd'hui, ça peut rapporter énormément d'argent, même si on prend par exemple 0,1%
oui, c'est ce
des
qui
revenus
est sur la table, le compromis.
De ces entreprises-là, ça pourrait rapporter des milliards, donc c'est quand même assez intéressant. Et aussi, en fait, pour revenir aux sources de financement, ça serait aussi des sources privées. Et donc là, c'est aussi intéressant pour faire participer davantage les entreprises à l'effort collectif.
Merci beaucoup, Juliette Landry. C'est très technique. Oui. Je suis désolée. Le temps nous manque. Un grand merci, en tout cas, pour ces explications. Bon courage pour ces discussions qui se poursuivent donc à Cali, à la COP16 en Colombie.